Je voudrais, avant la prière, lire du psaume 89. Du psaume 89, du premier verset jusqu'au verset 9. Je chanterai à jamais les bienfaits de l'Éternel. Je proclamerai à haute voix ta fidélité jusqu'à la descendance la plus lointaine. Car tu as promis, Seigneur, que l'alliance de la grâce sera établie pour toujours. Tu as établi ta fidélité aussi ferme que les cieux. J'ai fait alliance avec mes élus. Je l'ai juré à David, mon esclave. Je rendrai ta descendance éternelle. Et j'établirai ton trône pour toujours. Alors les cieux ont loué tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Ô Dieu qui est craint parmi le cercle des saints et plus redouté que tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi? Tu es fort, ô Éternel, et ta fidélité t'entoure. Levons-nous pour la prière. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Te remercions aussi de ce que tu nous accordes la disposition correcte à toi, les uns avec les autres, à ta parole, à ce que tu fais par ta grâce, et que tu te crées une atmosphère parmi ton peuple, tu te prépares une atmosphère parmi ton peuple dans laquelle tu peux bien te sentir, dans laquelle tu peux parler et agir. Seigneur fidèle, notre Dieu, nous te demandons, sois aujourd'hui présent, passe par nos rangs, parle à nos cœurs, sauve ceux qui sont perdus, guéris les malades, délivre ceux qui sont liés, et que l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui, dans cette réunion, que l'évangile de Jésus-Christ devienne une puissance de Dieu, une puissance de Dieu, la puissance de Dieu que nous expérimentons pour que et cette puissance puisse être expérimentée par tous ceux qui sont là pour la première fois parmi nous. Nous ne voulons pas seulement être ici. Nous voulons être conscients que nous sommes rassemblés ici en ton nom et dans ta présence pour écouter ta parole et pour mieux te comprendre dans tes résolutions et nous laisser insérer dans ton plan et dans ta volonté, Dieu fidèle. Parle-nous d'une manière ouverte et compréhensible pour nous tous. Nous te demandons, là où il y a des fautes, il y a des péchés, là où il y a des transgressions, là où il y a un manque d'amour, où il y a des préjugés, quoi que serait été et quoi qui serait, que tu puisses maintenant laisser maintenant le sang de l'agneau couler sur nous tous. Dans la foi, nous allons derrière le voile, dans le lieu très saint, et voyons le trône de la grâce avec le sang de la réconciliation aspergé. Fais-nous grâce que tu puisses nous relever dans ta présence pour que personne ne reste déprimé ou découragé, mais que tout soit consolé, relevé, affermi et fortifié. Toi, le victorieux de Golgotha, que tu puisses manifester ta victoire de manière puissante, d'une manière qui soit digne de toi. Nous t'honorons et nous te disons merci de ce que aussi les uns pour les autres nous accordent le respect nécessaire pour que nous puissions savoir comment nous conduire les uns avec les autres. Nous te demandons, sois avec nous et bénis-nous de la plénitude de ta grâce dans le saint nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. De tout notre cœur, nous vous saluons tous, nous vous souhaitons à tous la bienvenue parmi nous et avec nous ensemble pour ensemble avec nous écouter la précieuse parole de Dieu. Pour nous, la parole de Dieu est vraiment devenue précieuse. Nous pourrions, sans la parole, ne pouvons plus vivre sans la parole. Elle est pour nous, comme le Seigneur le disait, devenue une réalité. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. Et si la parole, de manière fraîche, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, tombe dans notre cœur, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, ensuite est vivifiée, alors nous sommes sous l'impression que c'est comme si le Seigneur lui-même, fraîchement et de manière vivante, parle avec nous. Nous comprenons que ce n'est pas quelqu'un qui parle de la parole de Dieu, mais que c'est Dieu lui-même qui parle avec nous par sa parole. Et alors, les choses vont pour nous comme avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Alors nous pouvons aussi dire, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors qu'ils s'entretenaient avec nous sur le chemin, ils parlent avec nous. Quand le Seigneur révèle la parole prophétique et parle avec nous, alors nos cœurs brûlent. Alors la révélation, la clarté vient, alors nous recevons la réponse sur tout ce que nous n'avions pas compris auparavant. Celui qui ensuite reste sans clarté, après que le Seigneur ait parlé avec lui, avec un tel homme, Dieu aura très peu comme intention. Avec un tel homme, le Seigneur aura aucune intention. Celui qui suit le Seigneur, alors en lui s'accomplit ce qui est écrit. Celui qui me suit ne marchera pas, ne restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Personne ne peut prétendre suivre le Seigneur et rester dans les ténèbres. Ou bien alors se trouver dans l'incertitude et l'ignorance concernant la volonté et le plan de Dieu. Celui qui suit le Seigneur, pas seulement du bout des lèvres, mais sur la base d'un appel divin à sortir de tout, cette personne ne restera pas dans les ténèbres, mais elle aura la lumière de la vie. Aussi cette écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 4 s'accomplit alors ensuite aussi dans sa vie. Mais vous frères, ne vivez pas dans les ténèbres pour que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. car vous êtes enfants de la lumière. Nous pouvons marcher dans la lumière de la parole de Dieu révélée. Et si la parole de Dieu vraiment nous a été révélée par le Saint-Esprit, alors c'est une lumière pour nous sur notre chemin. Et nous voyons où nous allons et reconnaissons ce que Dieu, par sa grâce, nous a préparé. Encore une fois, je vous souhaite à tous très, très fraternellement la bienvenue. Je ne prétends pas être un orateur qualifié ou même d'être un prédicateur élégant, non. Je revendique seulement ce droit de servir Dieu de tout mon cœur et de proclamer sa parole selon la vérité. Pas plus. Et que pendant une telle réunion comme aujourd'hui, il y a plusieurs choses que nous devons toucher et mentionner, c'est clair. Car nous vivons à la fin des temps et tout se déroule et se passe très rapidement. Et si nous connaissons, quand nous connaissons les Saintes Écritures et aussi aimons la parole de Dieu, alors nous observons les choses qui se passent d'une vue prophétique. Et je voudrais que tous le comprennent très clairement. Ces réunions, ces rassemblements sont interconfessionnels, accessibles pour tout le monde de la même manière. Ici, il n'est parlé de personne, et encore moins de manière désavantageuse. Ici, la parole du Seigneur est simplement prêchée. Bien sûr que au déroulement des prophéties de la fin des temps, il y a certaines choses que nous devons souligner et relever, mais nous ne le faisons pas pour blesser qui que ce soit, c'est seulement pour montrer à quel point les choses sont avancées. Je me rappelle à cet instant des 7 visions que frère Branham en 1933 avait. Vous les connaissez sûrement tous. Ceux qui ne les connaissent pas peuvent lire dessus. À la fin, il a vu une belle femme assise sur un trône. Elle était habillée de manière donc comme une lors d'une fête. Mais l'Esprit lui a parlé dans son cœur et a dit, cette femme dans son cœur est cruelle. Cela, bien sûr, ne va pas ensemble, n'est-ce pas? Et si, n'est-ce pas, nous osons aussi mentionner la dernière pensée qu'il a exprimée concernant cette femme, il a dit, ça pourrait être l'Église catholique. Et là, nous sommes arrivés à un sujet, et je vais vous dire aussi pourquoi je viens à parler de cela. Dans le monde, l'un des plus grands journaux quotidiens en Allemagne fédérale, avec la date de hier, il est écrit à la page 3, pourquoi les pasteurs évangéliques sont ordonnés prêtres, se laissent ordonner prêtres. Ici, il est estimé que de ces 18 000 pasteurs de l'Église évangélique, 3 000 ont été en cachette ordonnés prêtres. C'est un article qui, d'un côté, m'a choqué et, d'un autre côté, m'a fait encore une fois penser dans quel temps nous vivons en fait. On remarque comment est-ce que ce qui était précieux une fois aux hommes ne l'est plus et n'est plus valable pour eux aujourd'hui. On remarque comment est-ce que le droit de naissance est vendu et abandonné et que la prédication, l'annonce du message de l'évangile qui sauve est confondu avec de la politique religieuse, est confondu avec la politique religieuse. Alors, qu'il soit alors nécessaire qu'une voix s'élève dans le désert, qu'un avertissement, et pour ne pas dire la menace d'un jugement, soit proclamée. Cela devrait être une évidence pour chacun d'entre nous que les choses sont en train de prendre forme dans le domaine religieux, politique, dans le domaine économique, nous le savons tous. Et nous savons aussi, si nous avons lu les Saintes Écritures, sur la base des signes des temps, nous savons que nous sommes arrivés à la fin des temps, à la fin de la fin des temps. Mais nous savons aussi que dans Apocalypse 13, il est écrit que tous les hommes seront séduits qui habitent sur terre en dehors de ceux dont le nom est écrit dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Nous savons aussi comment est-ce que cette séduction a lieu dans le domaine religieux et aussi dans tous les autres domaines qui sont agités et inclus. Nous savons aussi que ceci est l'heure de la vérité. L'heure de la révélation du Dieu vivant dans sa parole et par son esprit. L'heure de la clarté divine pour tous ceux qui acceptent la parole de la vérité et pour tous les autres. N'est-ce pas? Ils vont continuer dans leur aveuglement et penser que c'est une bonne chose, une bonne cause qu'ils défendent sans être conscients où leur chemin mène. Il y a une chose que nous devons nous remarquer. Tous ceux qui, de tout leur cœur, ne prennent pas leur décision pour Christ, ils tomberont sous le joug de l'Antichrist et penseront servir Jésus-Christ. Il y a à peu près 2 semaines d'ici, j'ai eu un entretien au Zelotech. J'étais en train de prendre un café. Et il y a une femme docteur qui s'est assise et nous sommes venus avoir un entretien. Je lui ai donné mon traité sur Dieu, le chemin qui mène à Dieu. Et elle me disait subitement, vous savez quoi? Elle me dit, j'ai vendu mon Jésus. Et j'ai été un peu surpris, ça je ne l'ai jamais entendu de toute ma vie. Et elle disait, oui, j'ai vendu mon Jésus. Je dis, mais où est-ce que vous l'avez vendu? Elle dit, oui, à Rotaltega Amteig. Je dis, mais ça devient intéressant. Alors j'aimerais bien savoir combien vous avez reçu. Et elle disait, oui, il avait en fait une valeur de 20 000 DM, mais l'Église m'a seulement donné 10 000 DM. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qui s'est passé? Vous pouvez bien vous imaginer ce qui s'est passé à moi. Jésus, une figure faite de la main d'homme. Et dans ma Bible, il est écrit, tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation de ce qui est au ciel ou de ce qui est sur la terre. Les hommes sont religieux, pensent servir Dieu et en fait sont trompés, égarés et marchent vers la perdition sur le chemin large et cela avec la bénédiction finale. Donc ensuite suit leur dernière bénédiction, leur dernière onction, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui suit? Ensuite viendra la grande surprise quand ils se réveilleront de l'autre côté. Nous voulons maintenant nous réveiller, maintenant, déjà maintenant. Et c'est par l'annonce de la parole de Dieu que nous voulons encore contribuer à ce que beaucoup se réveillent. Pas seulement un réveil, comme on le connaît, mais se réveiller selon Matthieu 25. Car c'est ainsi que c'est écrit, comme l'époux tardait, toutes furent fatiguées, s'assoupirent et s'endormirent. Subitement, elles se sont tous réveillées en relation avec le cri. Voici, l'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Nous n'avons pas d'autre souhait que de voir Dieu à travers le dernier message, qui n'est pas le message d'un homme, mais un message divin. voir Dieu donner à son peuple de se réveiller véritablement par grâce. Avec cet éveil, la clarté, le sens et l'objectif de l'annonce de la parole doivent être révélés à chacun. Et j'espère que Dieu le fera. À cela, nous allons venir à parler de cette question aujourd'hui, comme nous le savons, dans toutes les églises et les églises libres. La parole est lue pour le premier Advent. Et en général, n'est-ce pas, ils prennent Zacharie, chapitre 9, à partir du verset 9. Laissez-moi commencer avec cela et continuer avec l'observation de la parole. Zacharie, chapitre 9, à partir du verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Zacharie 9, verset 9. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est sauveur, il est humble et monté sur un âne. Sur un âne le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars de guerre d'Éphraïm, le verset 10, et les chevaux de guerre de Jérusalem. Les arcs de guerre seront aussi détruits. Il commandera la paix aux nations, et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve d'Euphrate, jusqu'aux extrémités de la terre. Je voudrais volontairement ne pas parler vite, mais lentement. Cela doit pénétrer. Ce n'est pas une évangélisation. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Et nous avons besoin d'enseignements concrets, de la parole de Dieu pour reconnaître de quelle manière les Écritures ont été écrites et aussi de quelle manière elles s'accomplissent. Ici, il y a deux versets qui sont écrits l'un après l'autre et l'accomplissement se situe à 2000 ans de distance l'un de l'autre. Celui qui s'attendait à ce que le verset 10 s'accomplisse au même temps que le verset 9 a été confié autrefois. Au verset 10, il est écrit « Je détruirai les chars de guerre d'Éphraïm et les chevaux de guerre de Jérusalem. Les arcs de guerre seront aussi détruits. Il commandera ensuite la paix aux nations. Et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce que nous devons faire attention lors de la proclamation de l'annonce de la parole de Dieu, c'est de savoir à quelle époque une prophétie se réfère et quand est-ce qu'elle s'accomplit. Je le répète encore une fois. Celui qui autrefois s'attendait déjà à ce que le Seigneur entre dans son règne et que les Romains soient chassés du pays et qu'il soit mis de l'ordre et qu'il entre dans son règne et que sa domination s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Cette personne a attendu cela en vain, il était déçu. Il a été confus de voir déjà le verset 10 de Zacharie 9 s'accomplir avec le verset 9. Mais c'est peut-être, laissez-moi dire cela ici. Il était nécessaire que les hommes fassent d'abord l'expérience de la mission de Jean-Baptiste, car vous ne croyez pas que Jean-Baptiste a prêché sur la météo, ou bien ce serait mélangé dans la politique, mêlé de politique. Non, il a prêché ouvertement la parole qui était déterminée pour le temps. Il avait le message de l'heure, les promesses qui se référaient à son temps. Il les a mis en lumière. Exactement comme nous aussi dans ce temps, nous avons les promesses qui maintenant se réfèrent à notre temps dans lequel nous vivons. Il y a des comparaisons. Prenons par exemple Ésaïe 65, par exemple. Ésaïe 65, il est écrit ici concernant la nouvelle terre et les nouveaux cieux au verset 17, Ésaïe 65 au verset 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Ici, nous avons dans un seul verset la promesse concernant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et ce qui suit ensuite ne concerne pas les nouveaux cieux et la nouvelle terre, mais l'état dans le millénium. Vous pouvez tous vous-même le lire. Au verset 20, il est écrit, « Il n'y aura plus alors de nourrisson de quelques jours, ni de vieillard qui ne vivra pas pleinement ses jours, mais le plus jeune mourra à l'âge de 100 ans. » Vous pouvez continuer à lire si vous le voulez. Ici, nous avons aujourd'hui une heure biblique. Et je voudrais vous montrer, avec l'aide de Dieu, combien il est important de voir chaque verset dans le contexte et dans la liaison dans laquelle Dieu l'a placé, dans le contexte dans lequel Dieu l'a placé. Par exemple, ici, Ésaïe 65, verset 25, il est écrit, « Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion mangera de la paille comme le bœuf et le serpent se nourrira de poussière. Ils ne feront plus de mal. Ils ne commettront plus de méfaits dans toute ma montagne sainte. L'Éternel l'a promis. » Donc, l'état, la condition qui est décrite ici, comme déjà dit, est dans le millénium. Là encore, des enfants naîtront. Il y aura encore plusieurs choses comme nous en sommes habitués maintenant. Il sera planté et récolté et moissonné. Les hommes vont venir dans leur vigne se rassembler sur la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux. Personne ne mourra. Il n'y aura plus d'enfants qui naîtront dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le Seigneur a dit, voici, je rends toutes choses. Voici, je vais créer de nouveaux cieux et je vais faire toutes choses nouvelles. Donc, de tout ce qui, il n'y aura plus de traces des choses qui depuis Adam sont venues sur l'humanité. Mais cela doit être bien compris et classé correctement dans l'ordre biblique. Lisez avec moi Ésaïe chapitre 11. Ici, il est parlé dès le verset 1 que un rameau sortira du tronc d'Isaïe et qu'un rejeton de ses racines portera du fruit. Et ensuite, il est décrit au verset 4, Ésaïe 11. Ésaïe 11, verset 4. « Non, il jugera les pauvres avec droiture. Il rendra justice aux affligés du pays avec droiture. Il frappera la terre avec la verge de sa bouche et du souffle de ses lèvres, il fera périr l'impie. La justice sera la ceinture de ses hanches, verset 5, et la fidélité, la ceinture de ses reins. » Ici, de nouveau, les deux, en un seul souffle, sont redonnés. D'un côté, le verset 1, ce fait que, comme un rameau, il sortira du tronc, comme un rejeton de ses racines, et ensuite, que du souffle de ses lèvres, il fera périr l'impie. Vous pouvez comparer avec 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Quand Christ reviendra à la fin de la grande tribulation, alors il fera périr l'antichrist avec le souffle de ses lèvres. Et après, il entrera dans son règne. Et c'est ainsi que nous trouvons ici, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 11, verset 6, déjà, cette réponse. Alors le loup sera l'hôte de l'agneau et la panthère se couchera près du chevreau. Quand il aura fait périr l'impie, donc l'antichrist, avec le souffle de ses lèvres. S'il vous plaît, comprenez cela. Dans l'Ancien Testament, l'histoire du salut, parfois, a été résumée en seulement 2 et 3 versets, l'un après l'autre, dans un même chapitre. C'est donc par le Saint-Esprit que cela doit nous être révélé et éclairci, pour savoir quoi s'accomplit, quand et de quelle manière cela s'accomplit. Et donc, continuons ici en retournant au psaume 89. Je crois que nous avons compris jusqu'ici que ça ne suffit pas de fêter l'Advent et d'en parler et de parler que le Seigneur autrefois est venu. Aujourd'hui, nous attendons son retour. Il n'est pas l'enfant dans la crèche, il est le roi et le Seigneur, l'époux de nos âmes, qui reviendra pour nous prendre auprès de lui. Du psaume 89, je lis maintenant le verset 20 jusqu'au verset 22. En ce temps-là, tu parlais dans une vision à tes pieux. J'ai cédé le secours à un héros. J'ai élevé un élu au-dessus du peuple. J'ai trouvé David pour être mon esclave. Je l'ai oint de mon huile sainte pour que ma main soit constamment avec lui et que mon bras lui donne de la force. Ces paroles-là aussi ont un caractère prophétique. Ici, Dieu a parlé de ce qu'il a dit, qu'il a choisi et élu David. Et nous allons venir à parler de cela. Jésus est aussi appelé fils de David. Dieu avait donné la promesse que sur le trône de David, il ne lui manquera jamais une descendance. Son trône devait être affermi pour toujours et éternellement. Et c'est ainsi que comme David avait du courage, il ne pouvait pas regarder et voir comment est-ce que les ennemis d'Israël défiaient le peuple d'Israël et l'humiliaient et se moquaient quand il vint pour parmi ses frères, ses trois frères, n'est-ce pas, qui servaient dans l'armée. Quand il est venu pour leur apporter du pain et plusieurs choses à manger, il a vu et il a entendu ce qui se passait là-bas. Et déjà, en lui, ça l'a saisi. Il savait que Dieu est avec son peuple et que cet incirconcis philistin n'a pas le droit d'humilier le peuple de Dieu. Il a dit, j'irai pour combattre avec cette personne, avec cet homme, Saül, qui était désobéissant et sans courage, à cause de sa désobéissance, donna à David dans son désespoir sa propre armure. Sans courage à cause de sa désobéissance. Mais par cela, je retiens une leçon. Un homme qui est séparé de Dieu par la désobéissance perd le courage. Il voit les ennemis en position de combat. Il entend le défi lancé. Il se tient là avec toute son armure sans oser aller à la rencontre de l'ennemi. Alors cette pensée m'est venue. Oh, quelle différence existe entre Saül et David. David, un jeune homme, mais saisi par le Saint-Esprit, dans son cœur, il savait que cette heure est l'heure dans laquelle Dieu va se glorifier. Il ne s'agissait pas de lui. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de toi et de moi comme frères et sœurs. Aujourd'hui, il s'agit de ce que, sous l'onction du Saint-Esprit, comme David, nous ayons le courage de rencontrer et d'aller dans la foi à la rencontre de chaque défi de l'ennemi. Et si on veut nous revêtir avec une armure faite de mains d'homme, on remarque tout de suite que nous ne pouvons même pas faire un pas dans cette armure. Dieu, lui, il a son propre chemin, son propre plan, sa propre armure. Je ne viens pas avec une armure faite de main d'homme, mais au nom de l'Éternel. Et déjà, Dieu a manifesté sa victoire. La victoire de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha était aussi la victoire pour toi et pour moi. Était aussi la victoire pour tout le peuple de Dieu. Nous avons dès maintenant, ou bien oui, dès lors, seulement affaire à un ennemi vaincu. L'ennemi n'a aucun droit, n'a plus aucun droit de nous rencontrer et de nous défier. Et s'il ose, alors nous pouvons le rencontrer au nom de l'Éternel. Encore aujourd'hui, et comme autrefois du temps de David, ils ont poursuivi l'ennemi jusqu'à je ne sais pas où. Et ils les ont triomphés. Ils ont triomphé d'eux. Et aujourd'hui aussi, nous avons aussi le devoir, si nous croyons que Jésus-Christ a vaincu, alors nous avons aussi le devoir de ne pas rester en hésitant à l'écart, mais dans la foi, et cela au nom du Seigneur, aller de l'avant dans la certitude que la foi est la victoire qui a triomphé du monde. C'est seulement l'incrédulité, le doute qui peut nous paralyser et nous rendre hésitants. Si nous savons qui nous sommes et ce que Dieu a fait de nous et pour quelle raison, à quoi est-ce qu'il nous a déterminés, alors nous devrions aujourd'hui, dans la foi, être de nouveau fortifiés et retrouver de nouvelles forces. Nous ne venons pas ici pour montrer que nous avons de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Nous venons ici pour ensemble observer la parole de Dieu, l'écouter et la laisser opérer en nous ce que Dieu a promis. Et la laisser en nous opérer la foi, produire la foi, pour que dans cette foi, produite par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, nous puissions aller de l'avant. Le pécheur a le droit de dire alors au pouvoir du péché qui l'enchaîne. Je suis délivré, je suis libéré, affranchi, je suis racheté. Le malade a le droit de dire à la maladie, toi, pouvoir de maladie, tu as perdu tout droit sur moi. Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, a porté mes maladies, mes fautes et mes péchés. Et est allé avec sur la croix. Donc si nous avons cette confiance en Dieu et dans sa parole, nous voulons aussi avoir de la confiance que Dieu exauce nos prières et que nous sommes autorisés à utiliser nos droits, à les faire valoir. Nous ne faisons rien sans autorisation. Nous avons été autorisés à revendiquer nos droits, et cela au nom du Seigneur, et à les faire valoir. Tout ce qui nous a été pris, tout ce qui nous a été dérobé par Satan, donc l'a restitué, et tout ce qui nous a été infligé par lui, Jésus l'a ôté de nous. Nous sommes rachetés, délivrés, guéris, sauvés. Nous pouvons dire comme Paul, mort, où est ta victoire? Enfer, où est mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Aucun enfant de Dieu craint la mort, car la crainte n'est pas dans l'amour. Et si Nous avons l'amour de Dieu dans, nous portons l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alors cet amour a déjà vaincu la mort. Et l'amour de Dieu nous ravit dans la communion et dans la confiance directe à Dieu. La crainte se retire. Car si nous craignons, l'ennemi reçoit de nous un nouveau courage. Mais si nous recevons un nouveau courage, alors l'ennemi commence à craindre. Car alors il sait que ici, nous réclamons le droit que Dieu nous a donné. Et disons, Seigneur, tu as à Golgotha vaincu et triomphé. Nous nous tenons de ton côté et toi aussi de notre côté. Nous t'appartenons, nous sommes ta possession et j'ai peut-être raison que par nous tu glorifieras ta parole et tu la confirmeras. Dans Ésaïe 55, nous avons une parole très merveilleuse. Dans Ésaïe 55, en relation avec ce qui a été promis à David, il est écrit au verset 2 et 3. Ésaïe 55, verset 2. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain et votre salaire pour ce qui ne vous rassasie pas. Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de nourriture abondante. Prêtez-moi votre oreille et venez à moi. Écoutez pour que votre âme vive, car je conclurai avec vous une alliance éternelle pour réaliser les promesses de grâce sûres faites à David. Oh, quelle parole merveilleuse! Qu'est-ce que Dieu le Seigneur avait dit à David? Ma grâce, ne te quittera pas. Telle qu'elle a quitté Saül, ton prédécesseur. Tous connaissons la différence. L'un était le choix des hommes et l'autre était choisi de Dieu et établi par Dieu. David ne voulait même pas être roi. Son père ne l'avait même pas appelé, il est resté avec le troupeau. Les autres frères se sont placé pour voir si ce serait l'un d'eux que Dieu appellerait. Non, Dieu appelle des hommes qui ne veulent pas aller. Dieu choisit les hommes qui ne veulent pas, des hommes comme nous, des gens que nous n'appellerions même pas, des hommes de parmi le troupeau. Alors que Samuel demandait, mais as-tu encore un fils? Oui, mais il surveille le troupeau. Alors il lui a dit, va le chercher, car c'est sur lui que Dieu a mis sa main. Les hommes ont regardé à l'extérieur. C'est comme ça qu'il est écrit. Saül était une tête plus grande que tous. On n'avait pas besoin de monter sur une échelle pour le voir. Il était partout à voir. David était une tête plus petite que tous les autres. On ne pouvait pas le voir. Mais David, pardon, oui, David, mais il a été choisi par Dieu. Dieu a vu, a connu son cœur et Dieu a dit, cet homme est un homme selon mon cœur. Il n'est pas écrit qu'il était accepté des hommes, donc David, mais le bon plaisir de Dieu était avec lui. Et quand nous lisons les psaumes, nous pensons tout de suite à cet homme et pensons à toutes les situations par lesquelles il est passé. Un homme qui a dû passer par toutes les situations par lesquelles un homme peut passer. Si je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce qui a été épargné à David, vous diriez sûrement rien. Rien ne lui a été épargné. Il devait passer par tout ce qui existe comme situation sur terre. Mais Dieu est allé avec lui. Et David a mis sa confiance dans le Seigneur, en l'Éternel, qu'il a appelé à sortir, qu'il a oint. Ici, il est dit, venez à moi, écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de nourriture abondante. Prêtez-moi vos oreilles et venez à moi, écoutez, pour que votre âme vive. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle pour réaliser les promesses de grâce faites à David. Quand Dieu fait une alliance, alors c'est une alliance éternelle, parce que Dieu est un Dieu éternel. Dieu, par Golgotha, dans le Fils de David, qui est aussi fils de l'homme et fils de Dieu, Dieu a fait une alliance, a traité une alliance éternelle. Il nous accorde de la nourriture, il nous donne la nourriture pour nos âmes, pour nourrir nos âmes, pour assager nos âmes. Il ouvre nos oreilles pour que nous puissions écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Il nous accorde les promesses de grâce sûres et les dons et les promesses. Dans Hébreux chapitre 6, nous lisons le texte suivant. Hébreux chapitre 6, Hébreux, le chapitre 6, verset 16. Car les hommes jurent par celui qui est plus grand que... Et le serment est pour eux un terme à toute contestation pour confirmer leur parole. C'est aussi pour cette raison que Dieu, parce qu'il voulait rendre particulièrement clair aux héritiers de sa promesse l'immuabilité de sa volonté, s'est porté garant par un serment. Afin que par deux faits immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu ait menti, nous ayons un puissant encouragement. Nous qui avons trouvé notre refuge en retenant ferme l'espérance qui nous est proposée. Dieu a fait quelque chose d'immuable qu'on ne peut changer. Personne peut annuler ou bien alors déclarer pas valable ce que Dieu a fait sur la croix à Golgotha en Jésus-Christ. Pas seulement la promesse, mais l'accomplissement, la réalisation de cette promesse ici sur cette terre, de ces promesses. Les hommes doivent comprendre que Dieu n'a pas seulement donné des promesses, mais qu'il les a aussi accomplies. Par exemple, psaume 2, verset 7. « Tu es mon fils bien-aimé, je t'ai aujourd'hui engendré. » Il y a beaucoup de promesses que Dieu a fait devenir une réalité sur terre. Il a, vous pouvez le lire dans le prophète Zacharie, chapitre 9, tel que nous avions commencé à le lire. Et le verset 9 et 10, nous avions lu dans Zacharie, chapitre 9, verset 11, il est écrit, « Pour toi aussi, à cause de l'alliance de sang que j'ai conclue avec toi, je libérerai tes captifs et je les ferai sortir de la fosse sans eau. » Qu'est-ce que c'était? C'était la nouvelle alliance de Dieu dans le Saint-Sang de la réconciliation qui a coulé. Maintenant, en relation avec cela, j'ai une question très concrète à poser ici encore pour souligner de quoi il s'agit. Ici, il est dit que Dieu, à cause de l'alliance de sang qu'il a conclue, il libérera les captifs et il les fera sortir de la fosse sans eau. Je vous pose la question. Est-ce qu'il a fait? Amen. Il a fait. Il les a libérés des captifs. Vous pouvez le lire dans Éphésiens, chapitre 4. Une parole très connue de nous tous. Éphésiens, chapitre 4. Ici, il est écrit à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit aussi, monté en haut, il a libéré les captifs et il a donné des dons aux hommes. Mais qu'il soit monté, quel sens cela a-t-il? Sinon qu'il est d'abord descendu aussi dans les parties inférieures de la terre. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers entier. Alléluia. Nous continuons encore à lire. Nous savons selon Matthieu 27, dès le verset 51, qu'il est dit ici, et là il est écrit ici, que les sépulcres s'ouvrirent et beaucoup de corps des saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent. Sortir de leur tombeau après sa résurrection. Ici, je voudrais toucher un point culminant, le montrer devant nous. Si quelqu'un encore ici et là douterait à son pardon, à sa guérison, à sa délivrance, à son rachat un peu, ici et là, alors permettez qu'on vous dise cela. Acceptez cela comme venant de la main de Dieu directement. Et laissez-moi, permettez-moi que je vous dise la chose suivante. Avec la mort de Jésus-Christ sur la croix, devait être liée la rédemption des vivants, mais aussi celle de ceux qui étaient déjà morts, croyants, morts dans la foi, devait être tirée de là, des endroits inférieurs de la terre, et ressortir. Et la question que nous avons est la suivante. Est-ce qu'il a fait? Est-ce que ceux qui se sont endormis, qui étaient endormis, déjà endormis, et qui avaient mis de leur vivant leur espérance dans la venue du Messie, est-ce qu'ils ont été déçus? Non. Non. Et encore une fois, non. Quand l'heure avait sonné, a sonné, et que notre Seigneur en esprit est allé dans les endroits inférieurs de la terre, dans les endroits inférieurs, il a proclamé là-bas la victoire accomplie sur le mont de Golgotha. Il a pu leur dire, les captifs sont libres. Maintenant, vous montez avec moi, ceux de leur vivant, ceux qui de leur vivant avaient mis leur confiance. Alors, ainsi, si même la mort a été vaincue, elle était présente et elle a été vaincue là-bas. Et ceux qu'elle a retenus, elle a dû les laisser partir pour que l'écriture s'accomplisse. Je libérerai des captifs et je les ferai sortir de la fosse des eaux, de la fosse sans eau. Zacharie 9, verset 11. Si cela s'est accompli par la mort de notre Seigneur sur la croix à Golgotha, au moment même où il mourut, selon Matthieu 27, 51, alors cela prouve que aussi tout ce qui nous avait été promis par la mort sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ s'est aussi accompli. Mais en ces hommes sortis des endroits inférieurs de la terre, nous avons un exemple très pratique. Je voudrais dire la chose suivante. Si les croyants en Christ de l'Ancien Testament n'étaient pas sortis de leur tombeau avec lui, s'ils n'étaient pas apparus à de nombreuses personnes dans la ville sainte, si le Christ n'avait pas vécu la mort, oui, alors nous pourrions, c'est vrai, boiter avec notre foi. Car là, nous n'aurions pas eu de preuves. Nous devrions deviner, pas en tant que croyant, mais l'ennemi pourrait venir et demander, mais d'où est-ce que vous vous donnez le droit de prétendre que tout cela s'est accompli? Nous ne nous prenons pas de droit si ce n'est que Dieu nous l'a donné. Nous avons le droit de croire et de proclamer que Dieu, sur la croix à Golgotha, a effectivement confirmé cette espérance vivante en tous ceux qui avaient placé en lui leur espérance ou placeraient en lui leur espérance pour accomplir en eux ses promesses. Ceux qui se sont endormis en Christ pendant la période de l'ancienne alliance et qui avaient mis en lui leur espérance ne furent pas déçus. Ils sont ressuscités avec lui. C'est ainsi que vous pouvez le lire, comme on vient de le faire dans Matthieu 27, versets 51 et 52, tel verset 51. Donc, qu'est-ce qui devrait se passer à nous? Si nous savons que Dieu, avec le moment où Christ à Golgotha mourut, avait commencé à accomplir chaque promesse, à accomplir, à réaliser ce qu'il avait promis, ce qu'il avait dit. C'est ainsi que cela restera ainsi. Jusqu'à la fin. Jusqu'à que nous aussi nous passions de la foi à la vue. Chaque promesse de Dieu est oui et amen. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour nous qui croyons, les preuves divines sont quelque chose de merveilleux. Nous n'avons pas une théorie à laquelle nous boitons un peu, avec laquelle nous boitons un peu. Non, nous avons la sainte parole de Dieu qui est comme un rocher, qui est ferme comme un rocher, comme Dieu lui-même. Sa parole est comme lui. Elle est comme un rocher ferme, constante, inébranlable, pour le temps et pour l'éternité, pour toute éternité. Nous n'avons pas besoin de nous efforcer à croire pour recevoir la rédemption. Nous n'avons pas besoin de nous efforcer pour expérimenter notre guérison, pas à nous faire des efforts pour nous délivrer des chaînes ou bien de liens. Nous avons seulement besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin seulement d'accepter Jésus-Christ. C'est lui qui le fera, c'est lui qui l'opérera en toi. Pas seulement un enseignement. Les Saintes Écritures nous disent, tous ceux qui l'ont reçu, il leur donna le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire à tous ceux qui croient en son nom. Pas seulement écouter l'évangile, cela est la première chose. Et par l'écoute de l'évangile, nous reconnaissons la nécessité d'accepter comme notre sauveur personnel Jésus-Christ. Avec cela, nous avons alors accepté la rédemption, la guérison aussi, le salut de nos âmes aussi, la délivrance car en lui et par lui, nous avons, n'est-ce pas, tout ce que Dieu pouvait nous donner et ce que Dieu nous a donné. Cela continue encore avec Jésus notre Seigneur dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, au verset 4, il est écrit, au chapitre 1, verset 4. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 4. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. En lui était la vie. Quelle vie? La vie de Dieu. La vie divine. Car c'est ainsi que c'est écrit. Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui-même. Bien sûr que avec l'entendement, la pensée humaine, on ne peut pas expliquer cela. Christ est beaucoup de choses. Il est souverain sacrificateur. Il est l'agneau de Dieu. Il est médiateur, avocat, roi, prophète. Il est fils de l'homme. Il est fils de Dieu, fils de David. Il est beaucoup de choses en lui. Le Père lui-même s'est révélé. Et c'est ainsi que il est devenu Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, dans un corps de chair, s'est révélé, s'est manifesté pour, dans ce corps de chair, sauver l'humanité qui s'était perdue dans ce corps de chair et payer le prix dans ce corps de chair pour l'humanité, pour nous ramener ensuite dans la position divine perdue par la chute. Les hommes se brisent la tête là. Ce n'est pas nécessaire. Croyez de tout votre cœur. Cela suffit. Avec la tête, on ne va jamais comprendre. Et avec notre entendement humain, non plus classer les choses bibliquement. Mais avec le cœur, on peut sincèrement et honnêtement croire. Aussi même croire quand on ne peut pas l'expliquer ou bien le comprendre. Comment est-ce que quelqu'un peut expliquer que Dieu peut être en même temps au ciel et sur terre et qu'il peut être omniscient et partout au même moment? La compréhension humaine ne peut pas expliquer cela. Elle réfléchit et elle se dit, mais comment est-ce que cela est possible? Alors la réponse suit. Dieu est esprit. Et comme esprit, il est justement omniscient. Il peut être partout en même temps. Il est partout. Personne n'a besoin de dire, non, Dieu n'est pas ici. Si, il est partout. Il est présent. Mais dans ce contexte, il y a une parole très sérieuse. Dans Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et dans la vérité. Jésus-Christ, autrefois, a très repris le peuple d'Israël. Marc 7, verset 7. C'est en vain qu'ils m'honorent parce que ce sont des commandements d'hommes qu'ils ont fait devenir leur enseignement. Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu ne veut pas des lèvres qui parlent outre sa parole à côté de lui. Dieu veut des hommes qui, de tout leur cœur, savent estimer ce qu'il a fait pour eux et ensuite lui apporter le sacrifice des louanges de leurs lèvres, qui louent son nom. Pas seulement des prières répétées qu'on récite, qu'on a appris, mais une adoration opérée par l'Esprit de Dieu, remplie de reconnaissance dans notre cœur pour ce qu'il a fait pour nous. Selon la parole de l'Écriture, apporter à Dieu de la reconnaissance pour toutes choses et en toutes circonstances, car c'est ainsi qu'il le veut pour nous, qu'il le veut de nous en Christ Jésus notre Seigneur. 1 Timothée 1:5. Dieu n'est pas resté sans nous répondre. Il nous doit aucune réponse. Il a accompli chaque promesse qu'il a faite. Aujourd'hui, au premier Advent, nous pensons à ce que le monde, soi-disant, tout le monde dit chrétien, n'est-ce pas, passe à côté de ce que Dieu fait maintenant. Il y a beaucoup de programmes partout, dans chaque direction de foi et confession. Et à la fin, ils se retrouvent tous parce qu'ils pensent avoir un même but. Tous veulent sauver le monde. Tous parlent de paix. Tous parlent de ce qui se passe. Et ils veulent l'atteindre. Sans comprendre que la paix doit commencer en nous. La paix avec Dieu qui est au-dessus de toute pensée humaine, intelligence humaine. Les hommes, n'est-ce pas, proclameront la paix, mais seulement pour un moment. Car c'est ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 2 et 3. Quand ils diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs surprennent une femme enceinte. Et ils n'échapperont pas. Ce qui est d'une grande signification pour nous, cela devrait être la partie spirituelle. Dans ces jours, nous écoutons beaucoup de choses. Il est parlé de la pollution de la nature, des mers et des fleuves et des rivières, mais aucun homme parle de la mixture empoisonnée dans le domaine religieux. Il y a vraiment une parole dans l'Apocalypse. Je crois que nous ne devrions jamais passer à côté de cette parole dans l'Apocalypse. Chapitre 18, ici il est écrit au verset 23 concernant cette grande ville. La lumière d'une lampe ne brillera pas encore chez toi. Et le cri de l'époux et de l'épouse ne se fera pas entendre chez toi, car tes marchands ont été les grands de la terre. Et c'est par tes empoisonnements, aux traditions disent, c'est par tes sorcelleries que toutes les nations ont été trompées. Et c'est en elles qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre. Ça, c'est encore plus grave que toute la pollution des eaux, de la nature et tout ça. Ce qui est plus grave, c'est l'empoisonnement religieux. Combien de paroles d'hommes ont été mélangées? Combien de fausses inspirations, d'une manière que tout a été mélangé avec la parole de Dieu? Et la mort est dans le pot. Celui qui mange doit mourir. Comme celui qui mange là doit mourir. Comment nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu nous a révélé, sa sainte et précieuse parole? Il nous l'a conservé clair dans sa forme originale. Il nous l'a conservé. Rien, plus rien n'est mélangé. Cela, ça reste valable. Que Dieu seul est véritable. Quoique tous les autres hommes sont des menteurs. Dieu seul est le véritable, est le fidèle, est celui qui jusqu'à dans ce temps a gardé sa parole. Et il y a encore des hommes. Et pour cela que Dieu soit remercié, il y a encore des hommes qui ne mélangent plus, mais des hommes qui conservent sa parole, la reçoivent dans sa forme pure et originale, comme semence incorruptible, divine, qui produira selon son espèce ensuite, quand le temps sera arrivé. Je vous dis où se trouve la malice et la séduction de l'ennemi. L'ennemi réussit à, n'est-ce pas, occuper le monde entier avec tant de choses qui sont énormément importantes, mais pas avec une chose, n'est-ce pas, avec la chose qui est la plus importante que tout. Pour cette chose, ils n'ont pas de temps. Là, il y a des réunions pour la pollution du monde et pour tout, des mers et tout, pour tout. Mais où sont les grégnums, les réunions pour la protection de la vérité? Où est le peuple de Dieu? Que le Seigneur, encore une fois, peut bénir et revêtir pour élever la voix et mettre en lumière la vérité de sa parole. Dieu a son peuple sur terre. Et nous n'attendons pas en vain. L'heure de Dieu arrive. L'heure de la gloire où Jésus-Christ se glorifiera. Où il sera glorifié. L'heure de la confirmation et de l'accomplissement de sa parole. À ce moment-là, nous serons ceux qui ont été établis par Dieu, qui ont reçu la grâce de Dieu et qui ont été utilisés par Dieu. Maintenant, dans cette famine spirituelle, nous sommes conservés, gardés en vie. Nous sommes reconnaissants pour la nourriture pure qui nous a été léguée, transmise. Mais confiez donc, le jour arrive où cela sera manifesté, que nous avons été fortifiés par cette nourriture spirituelle, revêtue et fortifié et au nom du Seigneur prononcé au moment voulu et dans le temps voulu ce que Dieu voudra qu'on dise et qu'on prononce. Continuons à lire dans Actes des Apôtres au chapitre 13. Ici il est écrit au verset 32. Actes des Apôtres 13 verset 32. Ici, les pensées suivantes sont exprimées. Et nous vous apportons le message qui annonce le salut, à savoir que la promesse faite autrefois à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, les descendants de ceux-là, par la résurrection de Jésus. Comme il est aussi écrit dans le second psaume, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, mais l'ayant ressuscité d'entre les morts, pour qu'il ne tombe pas de nouveau en décomposition, il prononça en ces termes, « Je vous donnerai les richesses incorruptibles, saintes, promise à David, ces grâces qui sont assurées. » Restons encore à cette pensée. D'abord, il est parlé au singulier du Seigneur, notre Sauveur, qui, comme fils de David, a été manifesté selon la parole de l'Écriture. Tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Dans la deuxième partie du verset 34, il est écrit, je vous donnerai les richesses incorruptibles, saintes, promises à David, ces grâces qui sont assurées. Comment est-ce que Dieu ne devrait pas, avec Christ, nous donner toutes choses avec lui? Comment est-ce qu'il ne devrait pas accomplir sa parole, réaliser sa parole, confirmer sa parole et donner ce qu'il a promis? Ici, il n'est plus parlé au singulier, subitement au pluriel. Je vous donnerai, Dieu, en Christ, nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, qui existent dans les lieux célestes en Christ, qui existaient dans les lieux célestes. Dieu nous a sauvés et a fait de nous sa possession. Il nous a donné les promesses incorruptibles, saintes. Et dans ces promesses-là, il nous a accordé toutes les richesses assurées de sa grâce. Il faudrait que le ciel tombe avant que Dieu annule sa parole. Il a dit lui-même, l'Écriture ne peut pas être annulée. Donc, tout ce qu'il a promis, il l'accomplit certainement. Ensuite, il est écrit ici à partir du verset 36, car David lui-même, après avoir en son temps servi à la volonté de Dieu, s'est endormi. Il a été recueilli auprès de ses pères et il a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, frères, que c'est par Jésus, verset 38, que le pardon des péchés vous est annoncé. Et de toutes les choses dont vous ne pouviez obtenir la justification par la loi de Moïse, c'est en lui qu'est justifié quiconque croit. Oh, quelle parole merveilleuse! Plus de propres efforts, mais la foi en Jésus-Christ nous justifie. Oui, nous rend juste devant Dieu, comme si nous n'avions jamais péché, comme si il n'y avait jamais eu une transgression. Car tel que le péché, par un seul homme, est venu dans le monde, c'est ainsi que de nouveau la justification est venue par un seul homme, c'est-à-dire pour tous ceux qui croient. Et pas seulement qui croient, mais qui croient en lui, qui est devenu pour nous justification, rédemption, rachat et salut et sanctification. Vous voyez, la plupart des gens croient en Dieu à côté de Dieu, vous voyez, outre sa parole. Car c'est même écrit dans Jacques que le diable croit et tremble. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de croire à l'existence de Dieu, mais il s'agit de la foi biblique qui sauve. Et parce que la béatitude ne peut que venir de Dieu, nous devons comprendre que Dieu, en Christ Jésus, s'est révélé à l'humanité pour nous réconcilier avec lui et nous donner la vie éternelle par grâce. Celui qui veut avoir de la clarté sur la divinité, qui lise l'évangile de Jean, le chapitre 17, une parole très connue. Jean, chapitre 17, le verset 3. Pour certains, très difficile, mais pour ceux qui croient, très simple. Jean 17, verset 3. Or, en ceci consiste la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Sur la divinité, des hommes vraiment se brisent la tête et ne reconnaissent et ne reconnaissent pas la divinité parce que elle est seulement accordée par la révélation aux hommes. Comme déjà je le disais tout à l'heure, aucun homme peut expliquer Dieu. Mais Dieu s'est révélé. Il peut être au ciel, Père, et malgré tout, dans le Fils, et être présent dans le Fils ici sur terre. C'est pour ça que Jésus pouvait dire dans Jean 14, comment est-ce que tu peux dire, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Celui qui me voit, voit le Père. Celui qui ne voit pas Dieu en Christ ne le verra jamais. Il regardera quelque chose de quelconque sans voir son souhait accompli. Aussi certain que Dieu s'est révélé en Christ, c'est aussi certain aussi que la foi en Christ est nécessaire pour le salut. Si quelqu'un dit « je crois en Dieu », cela ne le sauve pas. Il doit croire que Dieu en Christ est devenu notre sauveur, notre rédempteur, notre sauveur, parce que nous étions perdus, nous avons besoin du sauveur, nous étions condamnés, nous avons besoin de la rédemption. Donc, nous devons croire que c'est en Jésus que Dieu lui-même nous a sauvés et nous a rachetés. Dans Luc chapitre 10, notre Seigneur, d'une manière particulière, l'a souligné, l'a relevé. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 21, en cette heure même, Jésus se réjouissait par le Saint-Esprit en disant, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux tout petits. Oui, Père, car c'est ainsi qu'il t'a plu de faire. Toutes choses m'ont été remises par mon Père. Et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et à qui le Fils veut le révéler. » Un mystère, une révélation. Pas une explication, mais une révélation. La révélation vient de Dieu. Jésus, la révélation de Dieu. En forme humaine. Maintenant, commençons avec le verset 23, ensuite, puis il se tourna vers les disciples en particulier et leur dit, bénis sont les yeux qui voient ce que vous voyez. Le verset 24, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Si nous pouvons voir et entendre, nous voulons être reconnaissants pour ça. Nous ne regardons à personne d'en haut avec mépris, mais nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons regarder à lui. Avec la certitude de la foi, il s'est révélé à nous. Représentez-vous cela du temps de Jésus selon Matthieu 21, ils ont chanté Hosanna, Hosanna. Loué soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, le fils de David. Qui l'a chanté? Les enfants. De la bouche desquels Dieu s'est préparé une louange. Les autres ont entonné avec les enfants. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre que de chanter avec eux? Et là, cette écriture s'est accomplie aussi. Dans le psaume 8, verset 3, de la bouche des enfants et des nourrissons, tu t'es préparé une louange. Mais bien aimé, Dieu a toujours des hommes, que ce soit jeunes ou adultes, il a toujours des hommes qui, au moment où les écritures s'accomplissent sous nos yeux, des prophéties bibliques deviennent une réalité. Alors là, les hommes commencent à louer et à tressaillir de joie. Je voudrais aujourd'hui ne pas instantanément demander de tressailler de joie et de louer. Mais je voudrais souligner une chose. Si Dieu s'est révélé à nous, si vraiment ce qu'il fait maintenant, nous le voyons, nous l'entendons, nous le classons bibliquement, et ce qui est déterminé pour nous, ce qui est pour nous, nous l'expérimentons personnellement, alors nous voulons, n'est-ce pas, laisser la louange de notre cœur se faire entendre, que nous puissions adorer le Seigneur, comme le cantique le dit, « Je t'adore, mon Dieu, je t'adore de la profondeur de mon cœur, comme je le peux. Je t'adore, Jésus. » Quand est-ce qu'on adore? Quand nos yeux et nos cœurs, quand, tels que nous sommes, nous reconnaissons que ici, c'est la main de Dieu qui a opéré ces choses. Ici, le Seigneur a son chemin. Ici, s'accomplit des prophéties bibliques. Cela me rappelle encore à la louange de Zacharie que nous trouvons ici écrite, ici dans l'évangile de Luc, là ici, d'une manière très merveilleuse. Il a exprimé cela ici, il est dit de Zacharie. Nous lisons à partir du verset 67, Luc 1, verset 67. Et Zacharie, son père, fut rempli de cet esprit et prononça les paroles prophétiques suivantes. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a jeté un regard bienveillant sur son peuple et lui a engendré la rédemption. Et il nous a suscité une corne de salut dans la maison de David, son esclave, car ainsi il l'a promis par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Il nous sauvera de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Pour faire miséricorde à nos pères et se souvenir de sa sainte alliance. On pourrait continuer à lire et continuer à lire. Qu'est-ce que nous remarquons maintenant ici? L'homme de Dieu, par l'Esprit de Dieu, a relevé ce qui était devenu, ce qui devait devenir une réalité dans son époque et aussi est devenu une réalité. Si l'Esprit de Dieu maintenant nous conduit et nous remplit et nous conduit dans toute la vérité, alors nous allons relever les promesses que Dieu a données pour ce temps et nous allons les mettre en lumière. Et c'est par cela que nous reconnaissons que l'Esprit de Dieu sonde de toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Et tel que c'est écrit ici, car ainsi il a promis par la bouche de ses saints prophètes, verset 70, d'autrefois. Tu ne peux rien faire d'autre, le verset 70, que de reprendre la même formule dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21. Car ainsi il a promis. Et cela, maintenant, faisant référence à Jésus dans Actes des Apôtres, 3, verset 21. Lui, cependant, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de la restauration de tout ce que Dieu a déclaré par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Qu'est-ce que c'était? Zacharie, par l'Esprit de Dieu, vivifié par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, a prononcé ces paroles. Car c'est ainsi qu'il avait promis par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Pierre, faisant référence au retour de Jésus-Christ, parle du temps du rafraîchissement, de la restauration de toutes choses. Et ensuite, il arrive à ce point. Jésus restera au ciel jusqu'au temps où tout sera restauré, rétabli dans l'état primitif. Jusqu'au temps de la restauration de tout ce que Dieu a déclaré par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. la restauration de tout ce que Dieu avait déclaré par la bouche de ses saints prophètes. Quelle grâce de ce que nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Et que Dieu, n'est-ce pas, nous laisse voir ces deux testaments dans leur entièreté. Ainsi, nous avons par la grâce de Dieu, nous le voyons, nous voyons le dessein du salut de notre Dieu. Pas seulement le voir, mais le vivre dans le temps dans lequel nous vivons. Le dessein du salut de notre Dieu. Dieu accorde à tout sa grâce. Il accorde sa grâce pour que nous reconnaissions le temps, mais aussi le message. Et il n'y a pas de message sans messager. Et vous savez très exactement, nous ne portons pas le message d'un homme. C'est le message de Dieu, le message divin. C'est sa parole révélée, ses promesses pour ce temps. Bien sûr qu'il a toujours utilisé un homme. Il a oint ses lèvres et il l'a béni, il a touché sa bouche, ses lèvres, pour qu'il puisse ensuite apporter le message divin. Nous n'avons pas honte de confesser. Aussi certain que Dieu avait un Moïse, avait un Élie, aussi certain qu'il avait des prophètes et des apôtres, c'est aussi certain aussi qu'il a eu un homme dans notre génération. C'était frère Branham, qui pouvait dire en mai, telle date, en 1946, le Seigneur m'a dit ceci et cela. Vous pouvez tous le lire. Pas seulement parler d'un appel, d'un mandat, d'une mission. Demandez aujourd'hui à chacun qui prêche s'il n'a pas un appel, s'il a un appel, s'il a un mandat, s'il a un envoi. Chacun a un appel, chacun a un envoi, chacun est envoyé, chacun a une mission, chacun dit ce que Dieu veut dire. Combien de choses Dieu doit dire? Combien de langues Dieu doit parler? Dieu parle qu'une seule langue. Il n'a qu'un seul langage. Et c'est le langage de sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Il ne passera pas. Et celui que Dieu envoie, il prononce les paroles de Dieu. Il annonce les oracles de Dieu. Il ne sera jamais unilatéral d'un seul côté. Il sera dans l'équilibre. Il prêchera tout le dessein du salut de Dieu dans l'équilibre. Et il va se considérer lui-même comme indigne de transmettre la sainte parole de Dieu. Mais ça aussi, nous avons compris. Dieu prend un vase. Il le purifie. Et par ce vase, il laisse proclamer sa parole. Il ne s'agit pas du vase. Il s'agit du contenu. Du contenu. De son contenu. Et le contenu du vase doit être divin. Doit venir de Dieu. Et là, nous sommes entièrement convaincus. Nous avons la vraie et pure parole de Dieu. Nous avons écouté la parole de Dieu véritable, sans interprétation, sans tromperie. Et c'est en elle que nous avons mis notre confiance. Et maintenant, par la grâce de Dieu, dans un temps si confus et plein de désordre, nous avons la clarté de la parole de Dieu. Et celui qui maintenant s'égare, il s'égare parce qu'il ne s'est pas approprié l'amour pour la vérité. Avec la vérité, on n'a pas le droit de jouer. On ne doit pas se donner des temps de réflexion, demander des temps de réflexion et dire, bien aimé Dieu, si c'est ainsi, alors j'ai besoin de mon temps pour me décider. Non. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Aussi vrai que vous êtes conscient que c'est sa voix que vous entendez. Oh, ne pas dire, bon, je vais réfléchir. Quand Dieu parle, ce n'est pas notre réflexion qui se met en marche, mais c'est la foi. Celui qui commence à réfléchir quand Dieu parle, ça veut dire qu'il ne croit pas. Il a des difficultés avec la foi. Mais celui qui n'a pas de difficultés avec la foi, alors il pourra peut-être avoir des difficultés avec la réflexion. C'est peut-être raison. Laissez tomber toute la réflexion. Ne réfléchissez pas, mais Dieu, mais croyez comme dit les Écritures de tout votre cœur. Et alors le bras de l'Éternel vous sera à ce moment-là révélé. Comme je suis reconnaissant et heureux, nous pouvons vraiment être reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait, pour la vue sur tout ce qu'il nous a donné, la clarté sur lui-même, sur sa parole, sur son plan, sur les enseignements bibliques, sur ce qui se passe maintenant dans le domaine spirituel et terrestre. il nous a accordé de la clarté sur toutes ces choses. Aucun de nous l'avait, mais maintenant, nous avons la grâce d'avoir ces choses, tous, de les avoir par sa grâce. Nous ne parlons pas seulement du retour de Jésus-Christ, mais nous appartenons à ceux qui ont entendu le dernier appel et qui se sont laissés réveiller et qui se sont levés du sommeil et qui maintenant écoutent le dernier appel. Voici, l'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Et celui qui prend au sérieux cet appel et que cet appel pénètre son âme, il se réveillera, il se lèvera, il comprendra. Et aussi, dans ce contexte des choses, il faut que nos vases soient aussi remplis de l'huile de l'Esprit pour que s'accomplisse que nous nous rassemblons sans tension, sans quoi que ce soit, selon la parole de l'Écriture, psaume 133. Comme il est agréable et bon que des frères habitent ensemble, unis, et que cette union divine, telle qu'elle existait le jour de la Pentecôte, parmi ceux qui étaient rassemblés, le Saint-Esprit, encore une fois, pour que le Saint-Esprit, encore une fois, puisse se déverser comme Samson autrefois, que nous puissions dire, « Oh Seigneur, encore une fois, que encore une fois, ta puissance soit manifestée pendant tout ce temps de l'enseignement et de correction. Maintenant, Dieu accordera une pluie puissante, il déversera une pluie puissante sur la semence pour la faire mûrir, pour que la moisson soit récoltée. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il nous a aussi réveillés, n'est-ce pas? Pour que, dans cet état de réveillé, nous pouvons voir comment il veille sur sa parole et comment est-ce qu'il accomplit. Seulement ceux qui se sont vraiment réveillés et qui vraiment ont compris de quoi il s'agit maintenant, à quoi est-ce qu'il doit faire attention. Ce sont ceux-là seulement qui verront toutes choses s'accomplir, reconnaîtront les choses et les classeront bibliquement. Et c'est pour cela que Dieu nous accorde sa grâce. Entièrement être réveillé, se réveiller, pas seulement à demi-réveillé, endormant à moitié, mais complètement réveillé.